Thérèse Nadeau-Lacour, il y a plus de 20 ans, Jean-Paul II béatifiait Marie de l'Incarnation. Une personnalité qui a été célibataire, mariée, veuve, consacrée, fondatrice. On l'appelle même la mère de l'Église au Canada.
Lorsqu'on parle de Marie Guyard, c'est son nom de jeune fille, Marie Guyard de l'Incarnation, c'est son nom de religieuse, on peut d'abord voir comme des exploits. Il est très rare qu'une femme soit amenée à passer par tous ces états. On a pu dire d'elle qu'elle était une femme accomplie.
C'est quand même très étonnant parce qu'elle a été mariée, elle a eu un enfant et elle était veuve.
Oui,
et
elle
femme
a...
d'affaires.
Alors, très, très jeune, elle souhaitait être religieuse, mais ses parents lui ont refusé. Paraît-il parce qu'elle avait un tempérament trop bouillant pour être religieuse. Elle accepte. Et elle accepte d'être mariée à 17-18 ans. Un an après, un petit garçon naît qui a le prénom de son papa. Quelques 6 mois plus tard, le papa décède en laissant une entreprise dans un très mauvais état. Que fait Marie Martin ? Elle essaie de redresser l'entreprise de son époux. Elle y parvient assez bien. Et elle s'occupe de son bébé, mais on fait pression pour qu'elle se remarie. C'est invraisemblable qu'une jeune veuve avec un bébé à charge ne se remarie pas à cette époque-là. Elle refuse. Par contre, elle va accepter d'aller travailler chez sa sœur et son beau-frère et d'aller y vivre avec son petit Claude à une condition, c'est d'être traitée comme servante.
Extérieurement, on voit donc tout ce que vous venez de nous dire, mais déjà il se passe des choses à l'intérieur pour qu'elle souhaite être servante.
C'est elle-même qui, dans son autobiographie, que nous appelons la relation de 1654, ce n'est pas le titre qu'elle a donné, d'autant que c'est une immense lettre qu'elle envoie exclusivement à son fils en lui disant « s'il vous arrivait quoi que ce soit, il faut le détruire ». Donc c'est une confidence d'une maman à son fils. En 54, elle a 55 ans, c'est une femme dans sa pleine maturité et qui relie sa vie pour son fils, à la demande de son fils et avec l'accord de son directeur spirituel.
Elle met
Alors,
tous les bouts ensemble.
Oui, absolument. Elle a une vision à 55 ans. Elle mourra à 72 ans. Mais à 55 ans, elle a déjà une perspective sur sa vie spirituelle et sa vie mystique, mais aussi sur ce qu'elle appelle ses états extérieurs. Alors, elle a une phrase incroyable où elle dit « on voyait tout cela, mais on ne voyait pas ce qui se passait à l'intérieur ».
C'est ça, il y a ce jeu extérieur-intérieur.
C'est la clé de compréhension de ce que l'on voit.
C'est ce qu'avait compris Jean-Paul II.
Absolument. Alors Jean-Paul II, lorsqu'il a béatifié Marie de l'Incarnation, dit effectivement c'est une femme exceptionnelle qu'on a pu appeler la mère de l'Église au Canada, il le dit lui-même. Mais ce qui est le plus important, c'est sa vie spirituelle. Et il ajoute, et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous devons l'imiter.
Alors donc elle a quel âge là?
Alors, elle a 20 ans lorsqu'elle est veuve, mais déjà, tout de suite après son veuvage, un premier événement s'est passé. Alors, c'est ce qu'elle appelle sa conversion. Elle va vivre un événement assez étrange. Elle était en train de partir à l'atelier de son défunt mari. Elle est donc dans ce qu'elle appelle les embarras des affaires. Et elle se voit plongée dans du sang, qu'elle reconnaît être immédiatement le sang de Jésus-Christ. Versé pour elle. Alors ça, bien sûr, ça doit devenir majeur. Et elle dit, si j'avais été la seule qui ait péché au monde, il serait quand même venu pour moi. En même temps, elle voit défiler tous ses péchés et elle se sent responsable de la rédemption. Et en même temps, elle est ravie en Dieu, c'est son expression, elle est emportée en Dieu, où Dieu lui manifeste son amour et sa tendresse. Donc elle fait, si vous voulez, l'expérience essentielle dans la vie chrétienne, qui est l'expérience de la miséricorde de Dieu, et en même temps de l'amour infini de Dieu.
Et de son péché.
Et de son péché.
Et ce qu'elle ajoute aussi, c'est que si elle était toute seule au monde, Jésus serait venu,
tout de même venu
la sauver.
Oui, absolument, pour elle. Alors elle fait, si vous voulez, l'expérience de l'amour de Dieu pour elle. Le salut pour elle. Et quelques années après, elle fera l'expérience du salut pour tous. C'est ce pas-là qui va être son pas missionnaire. Ensuite, elle va faire une autre expérience qui sera donnée par un songe où là, elle s'approprie ce que nous savons tous, que le Christ est venu pour sauver l'humanité entière. Et là, elle est prise d'une folie d'amour qui est, il n'est pas possible qu'il y ait encore dans le monde des personnes qui ne savent pas de quel amour elles sont aimées. C'est impossible. Et c'est cela qui va nourrir en elle ce qu'on pourrait appeler sa vie apostolique. Alors, elle avait eu un premier songe à l'âge de 7 ans. Elle se voyait dans une cour d'école et tout d'un coup le ciel s'ouvre et le plus beau des enfants des hommes, dit-elle, vient vers elle et lui dit « Voulez-vous être à moi ?» Et elle répondit « Oui ». Et ce songe va être en fait une clé d'interprétation. « Voulez-vous être à moi ?» Elle répond « Oui ». Ensuite, elle s'apercevra qu'il faut être toute à lui. Et c'est l'histoire de sa vie en fait. Alors, deuxième songe, elle a 33 ans. Dans l'octave de Noël, elle se voit dans un pays, elle dit aussi épouvantable qu'effroyable, pleine de brouillard, sans habitation, sinon une petite chapelle sur laquelle il y a un trône et sur ce trône est assise la Sainte Vierge avec son bébé sur les genoux. Et quand elle arrive avec une dame laïque, elle court vers la Sainte Vierge qui se tourne vers elle et qui l'embrasse par trois fois et qui semble parler à l'enfant Jésus de Marie de l'Incarnation. Elle ne comprend rien. Un an après, elle aura la traduction du songe. C'est là une expérience qu'elle va vivre. Elle entend « C'est le Canada que je t'ai fait voir. Il faut que tu y ailles faire une maison à Jésus et à Marie. » C'est une annonciation. C'est un appel vocationnel. Et elle répond « Oh mon grand Dieu, vous pouvez tout et moi je ne puis rien. Si telle est votre volonté, me voilà prête. » Elle qui disait « Mon centre c'est Dieu » va se mettre à dire « Mon centre c'est le Canada. » Le Canada étant le lieu de la volonté de Dieu. Donc ça devient son centre, bien entendu.
Alors, racontez-nous maintenant Thérèse Nadeau-Lacour, elle va partir.
C'est en 1639, mai 1639, qu'elle quittera la France. Et ils finissent par arriver le 1er août 1639. Et là, tout de suite, elles ont une petite maison dans le port de Québec. Une petite maison, elle dit, on voyait le ciel à travers les poutres. C'est une petite pièce que tout de suite, elle transforme en cloître. Et elles sont venues pour les Amérindiennes.
Thérèse Nadeau-Lacour, vous évoquez aussi beaucoup dans les écrits de Marie de l'Incarnation les états d'oraison. Il y aurait 13 états d'oraison. Il y a un point que vous avez noté, c'est elle écrit à son fils « Vous passerez par des changements d'état spirituel dans laquelle vous croirez que tout est perdu pour vous, mais l'intention de Dieu est de vous sanctifier. » On sent la nécessité chez Marie de l'Incarnation de ces passages d'état spirituel qui nous transforment sans que l'on s'en rende compte.
Là, nous jouons entre donc, le visible et l'invisible. Alors, nous avons les exploits, parce que ce sont des exploits de fondatrice en Nouvelle-France, première femme religieuse missionnaire de la chrétienté. L'apôtre des Amériques, nous pourrions dire. Mais de l'autre côté, ou plutôt plus profond, verticalement, nous avons ce en quoi s'enracine son agir. Or, son agir s'enracine dans sa vie mystique, dans sa vie spirituelle. Ce ne sont pas deux réalités séparées. L'un est la cause de l'autre, c'est-à-dire que l'invisible est la cause du visible. Et elle le dira toujours. Elle dit « car il s'agit d'être sainte ». Car il s'agit d'être sainte. S'il y a un acte héroïque, s'il y a une épopée, c'est l'épopée de la sainteté. Alors, je crois qu'il faut prendre cette phrase-là et puis la mettre en rapport avec une de ses dernières phrases où elle dira à la fin de sa vie à son fils « Quant à la sainteté, je marche à pas de plomb. » Elle trouve qu'elle est loin de la sainteté. Il s'agit d'être sainte. Et j'y marche, mais à la fin de sa vie, elle dit « J'y marche à pas de plomb. » Alors, c'est cette entreprise de sainteté que traduit les 13 états d'oraison. Il est évident que Marie de l'Incarnation, faute de mieux, donne 13 étapes spirituelles par lesquelles l'Esprit-Saint l'a fait passer pour devenir sainte et puis en même temps pour devenir la fondatrice qu'elle est devenue, la mère de l'Église en Canada. Ces étapes transforment sa substance intérieure, la transforment réellement jusqu'à l'union de respiration. Elle respire Dieu d'une certaine manière, c'est cela.
Merci Thérèse Nadeau-Lacour.